Radio Okapi. Grande interview.
Est-il possible d'épargner lorsqu'on ne gagne pas assez? Économiser apparaît comme un vrai supplice pour de nombreux Congolais. Ils affirment être dépourvus des moyens ou n'en gagnent pas assez pour disposer de quoi épargner. Pour répondre à toutes ces questions, grande interview reçoit coach Ricardo Kanyama, entrepreneur self-made man et président de International Success Training Center, ISTC en sigle. Donna Madimba réalise cette émission. Michel Kifinda Ngoy la coordonne sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Coach Ricardo Kanyama, la RDC a célébré mardi 31 octobre dernier sa journée internationale de l'épargne à Kinshasa comme dans les grandes villes du pays. Les réflexions ont tourné autour du thème « Épargner en RDC pour mon avenir ». Oui, c'est possible. Coach Ricardo, est-il vraiment possible d'épargner en RDC?
Pas seulement que c'est possible, mais c'est obligatoire. Si la RDC veut renverser l'équation, veut sortir de la pauvreté, alors l'activité de l'épargne et de l'investissement devient une activité obligatoire et souhaitée.
On n'épargne pas comme ça en vain. Par quoi devrait-on commencer, selon vous?
Je pense que les gens devaient commencer par chasser la pauvreté anthropologique que nous avons, donc l'ignorance que nous avons sur ce qu'il faut faire pour le développement de notre pays ou le développement personnel. Cette ignorance fait que les gens sont de bonne volonté, ils travaillent, ils agissent, mais ils font parfois justement le contraire de ce qu'il faut faire pour sortir de la pauvreté. Alors, lorsque les gens n'ont pas la connaissance de l'importance de l'épargne, lorsque les gens n'ont pas développé les compétences et les habitudes pour retenir une partie d'argent et pour destiner cet argent à l'investissement, alors ils se limitent seulement au premier paramètre de la richesse qui est la production. Alors que lorsque vous produisez et que toute la production est destinée à la consommation, vous perdez toute chance de sortir de la pauvreté ou de progresser du point de vue création de richesses ou du point de vue financier.
Sous-entendu par là que devenir riche, ça s'apprend, mais dans le contexte congolais, on a certaines appréhensions vis-à-vis de l'argent. L'argent, c'est le diable. L'argent, c'est la racine de tous les maux. Il faut faire attention à l'argent. Ne faudrait-il pas commencer par là?
Oui, parce que ça c'est une conséquence logique donc de la pauvreté anthropologique, donc de l'ignorance. Le fait que l'homme congolais qui est sorti de la société traditionnelle n'avait jamais développé son intelligence sur la richesse, alors la richesse est restée un sujet lié à beaucoup de superstitions, lié à beaucoup de peurs, lié à beaucoup de tout ce qu'on raconte autour de la richesse. Mais vous comprenez aussi que le problème de la RDC aujourd'hui, ce n'est pas un problème de la population, c'est un problème de pauvreté. Donc nous ne pouvons pas dire une chose et son contraire. D'un côté, nous disons, faisons attention à l'argent, l'argent est la source de tous les maux, l'argent c'est pour les occultistes, l'argent ne nous amènera pas au ciel. De l'autre côté, nous crions que le Congo est pauvre, nous voulons bien vivre, nous voulons avoir l'argent pour payer les frais scolaires des enfants, pour manger. On doit d'abord sortir de cette compréhension. On doit éclairer les Congolais, que les Congolais comprennent que l'argent en lui-même n'est ni bon ni mauvais, c'est une énergie neutre, n'est-ce pas? L'argent, c'est justement un symbole qui représente l'avoir d'une personne. J'ai toujours donné pour expliquer aux Congolais les concepts de l'argent, parce que quand on ne comprend pas une réalité, on ne saura jamais avoir un jugement juste à sa faveur. Alors, l'argent, prenons, c'est l'équivalent de l'avoir d'une personne. Quand un fermier a une chèvre, cette chèvre il peut être vendue. Si la chèvre se vend à 100 dollars, les 100 dollars n'est pas de la magie, n'est pas une mauvaise chose. C'est justement un billet de banque qui symbolise l'avoir de ces fermiers-là. Donc tout ce que nous avons peut être échangé en argent. même notre intelligence. Lorsque quelqu'un travaille dans une entreprise, on lui donne le salaire représente la contribution de ce qu'il a donné dans l'entreprise en termes de compétences, en termes de connaissances, n'est-ce pas? Si ces contributions ne sont pas une mauvaise chose, pourquoi alors l'argent qui est l'équivalent de ces contributions devrait être une mauvaise chose? Moi je pense que nous devrions vraiment changer ces concepts. Je me dis toujours que Dieu lui-même avait tellement voulu que les Congolais soient riches, c'est pour ça qu'il nous a donné, il nous a mis dans un pays qui est un scandale géologique, parce que n'oublions pas que notre pauvreté n'est pas une pauvreté en termes de ressources naturelles. Notre pauvreté est liée justement à notre mauvaise compréhension de l'argent et à notre incapacité à transformer les opportunités en bien-être ou en richesse.
Mais quand nous regardons, Coach Ricardo, dans la société traditionnelle, nos aïeux avaient, lorsqu'ils faisaient une récolte, ils gardaient toujours une partie et pour la prochaine fois, c'était déjà une forme d'épargne. Ils enlevaient ce qu'il fallait consommer, ce qu'il fallait vendre, ce qu'il fallait distribuer. Mais comment se fait-il que du point de vue de l'argent, nous n'avons pas pu pérenniser ce système qui pratiquement était bon?
Oui, c'est parce que il n'y a pas eu continuation des cultures. Je pense que l'Africain traditionnel, nos ancêtres, avant l'éducation amenée par les colons, avaient l'intelligence financière et l'éducation financière ou l'éducation à la richesse. Ils connaissaient le principe de base de la création de l'abondance qui était rien d'autre que d'utiliser une partie des récoltes pour la saison prochaine, n'est-ce pas? Les ancêtres savaient que si je produis 10 sacs de maïs, je ne peux pas manger les 10 sacs. Je peux manger 9, mais il faut que je garde un sac, n'est-ce pas, pour me permettre de semer la semaine prochaine, parce que c'est en semant que nous pouvons multiplier maintenant la quantité de maïs. Alors, le Belge, lorsqu'il est venu avec cette éducation que nous avons aujourd'hui, les Congolais modernes, l'éducation que nous avons eu à l'école, on a mis juste l'accent sur la formation professionnelle. Donc, on devait donner aux Congolais les compétences professionnelles dans un domaine, par exemple, dans la mécanique, dans l'enseignement, dans la comptabilité, ainsi de suite. Et on lui avait rien expliqué à ce qui est à voir les rapports entre cette pratique qui existait en termes d'épargner la production agricole avec l'épargne de l'argent. Alors ils sont entrés dans un système où on les a programmés à dépenser tout l'argent. N'oubliez pas que dès les années 1930, quand quelqu'un travaillait chez un homme blanc et quand on lui payait son argent, à côté il y avait déjà une boutique où il devait faire toutes les dépenses. Donc il devait dépenser tout son argent à payer la nourriture, les habits, les sels, ainsi de suite. Et nous sommes entrés donc dans cette culture là où nous avons cru que nous produisons pour dépenser. Or produire et tout dépenser pour la consommation, c'est la meilleure manière de rester pauvre. C'est pour ça que nous disons aujourd'hui que le Congolais est moderne, n'est-ce pas? Il est professionnellement intelligent, mais il est financièrement ignorant. Et si nous voulons vraiment résoudre les problèmes de la pauvreté et réussir le développement de notre pays, nous ne devrions pas seulement nous attaquer aux effets, mais nous devrions nous attaquer à la cause. La cause ici étant l'ignorance, il nous faut des plans structurels pour combattre l'ignorance, pour ramener les Congolais à sa compréhension de ses ancêtres qui avaient cette capacité et cette compréhension qu'il fallait épargner une partie de nos avoirs et les investir pour la croissance. Donc je pense donc que vous pouvez d'ailleurs constater que dans notre système éducatif, il n'a jamais existé un cours sur l'éducation financière et toute la population souffre de cette absence. Ces problèmes liés à la mauvaise compréhension des richesses, des riches, de l'argent, viennent de l'absence de ces cours-là. Et je pense que si nous insérons ce genre de cours dans notre système éducatif, s'il y a des programmes de vulgarisation de l'importance de l'éducation financière, de sensibilisation comme nous sommes en train de faire, le peuple sera éclairé, et quand un peuple est éclairé, il changera son action, et s'il change son action, il changera aussi son destin financier.
Grande interview reçoit aujourd'hui Coach Ricardo Kanyama, entrepreneur, self-made man et président de International Success Training Center, ISTC en sigle. De plus en plus en RDC, et particulièrement ici à Kinshasa, beaucoup de centres comme votre centre, l'ISTC, forment des Congolais à l'éducation financière. Mais pour les auditeurs qui sont en train de nous suivre, pour être pratique, comment faut-il épargner? Qu'est-ce qu'il faut épargner? Faut-il épargner pour investir ou faut-il épargner pour acheter une voiture, pour acheter des habits, pour préparer Noël? Nous sommes à la veille des fêtes de fin d'année. Comment épargner et que faut-il épargner?
Ok, merci beaucoup. Ça, c'est une question intéressante parce que les gens parfois entendent parler de l'épargne et ils ne savent pas les deux types d'épargne que nous avons. Nous avons deux types d'épargne. Nous avons l'épargne de pauvreté et nous avons l'épargne des richesses. L'épargne de pauvreté, c'est ce que nous appelons épargne de consommation. L'épargne de consommation n'est rien d'autre qu'une dépense de consommation différée. Ça veut dire, ça ne cesse pas d'être une dépense de consommation. Mais au lieu de payer le poulet au mois de janvier, tu vas garder l'argent des poulets pour payer à Noël, donc le 25 décembre. Et, somme toute, à la fin de l'année, tu vas te retrouver sans argent. C'est ça que nous appelons l'épargne de pauvreté ou l'épargne de consommation. C'est toute épargne que nous faisons pour payer une voiture, pour payer un habit, pour les mariages, pour les loisirs. Donc, ce qui nous donne une jouissance quelconque. Mais l'épargne dont nous sommes en train de parler ici et nous devons utiliser, c'est l'épargne d'investissement. C'est l'épargne de création de la richesse. Donc, nous épargnons pour avoir un capital qui nous permet d'investir, n'est-ce pas, dans la production des biens ou des services, parce que l'investissement, c'est le seul moyen pour multiplier les richesses ou pour agrandir l'argent, n'est-ce pas? Or, pour investir, nous avons besoin de capitaux. Et ces capitaux-là viennent d'où? Ces capitaux doivent venir par notre capacité d'abord d'économiser. Parce que n'oubliez pas que pour devenir riche, vous devez utiliser soit votre argent, soit l'argent de l'autre. L'argent de l'autre, c'est les crédits. Or, aucune banque ne vous donnera les crédits si vous voulez commencer dans votre activité. Donc, vous êtes obligé de commencer avec vos moyens de bord. Et ces moyens de bord doivent venir de la constitution par l'épargne que vous faites, les prix des sacrifices, n'est-ce pas, pour avoir ces capitaux. Donc, nous insistons que notre pays n'a pas besoin seulement qu'on nous parle de l'épargne de consommation, comme l'épargne pour payer des voitures, des crédits, tout cela ne fera qu'enfoncer notre pauvreté. Nous avons besoin de l'épargne d'investissement, ça veut dire l'épargne que nous faisons en vue d'obtenir un fonds d'investissement. Ça peut être l'épargne pour appliquer en banque pour que cet argent puisse accroître en termes d'intérêt, ou l'épargne que nous avoir l'argent dont nous avons besoin pour un projet personnel ou communautaire.
Coach Ricardo Kanyama, oui, il faut épargner, mais vous savez, plusieurs statistiques à travers le monde démontrent que le Congolais vit avec moins d'un dollar par jour. Comment peut-il épargner avec un tel fonds?
Oui, le constat est amer, hein? Le constat est amer. Le Congolais vit avec moins d'un dollar par jour. C'est triste, c'est dramatique. Mais d'autre part, connaissez-vous une autre formule pour faire sortir les Congolais dans la situation actuelle? Si nous disons de l'épargne, parce que si les Congolais n'épargnent pas, là où nous sommes, c'est triste, mais nous allons encore nous enfoncer. Parce que n'oublie pas que si nous sommes arrivés à ce niveau de pauvreté, c'est justement parce que même lorsque les pays avaient un pouvoir d'achat élevé, les Congolais n'économisaient pas. N'est-ce pas? Alors, ils nous ont enfoncés dans cette situation. Si aujourd'hui vous gagnez 2 dollars par jour, c'est peu. Alors, vous dépensez les 2 dollars, donc toute la vie vous resterez pauvre. Mais par contre, si vous gardez les 1 dollar par jour, c'est déjà un processus de renversement et de création de la richesse. Prenons d'abord, si chaque Congolais continue avec la même logique, chaque jour nous consommons tout ce que nous gagnons. Nous sommes 70 millions d'habitants. Nous gagnons à peu près 1 dollar les jours et nous consommons les 1 dollar. Ça veut dire, nous consommons 70 millions de dollars par jour, ce qui fait à peu près 2 milliards 100 millions de dollars en un mois. Ça fait à peu près 24 milliards de dollars en une année. C'est beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Imagine maintenant qu'on fait les sacrifices, parce qu'il est question des sacrifices pour faire l'épargne. Pourquoi nous faisons ces sacrifices? C'est justement pour sortir de là où nous sommes et sauver notre avenir, n'est-ce pas? Alors, si nous arrivons à comprendre l'importance de l'épargne et que chacun arrive à économiser 1 dollar par jour, ça veut dire que notre pays peut se retrouver avec 70 millions de dollars économisés par jour. Alors, ce qui nous fera près de 2 milliards 100 millions de dollars en un mois et près de 24 milliards en une année. N'oubliez pas que la pauvreté de notre pays est due aussi du fait que le pays n'a pas d'argent. Ça veut dire, nous avons des potentialités, mais nous n'avons pas de capitaux. Et dès lors que nous aurons des capitaux, nous aurons des capacités maintenant pour entreprendre des investissements qui permettent à notre pays de ne pas dépendre de tous les temps, soit des investissements étrangers, soit des importations, n'est-ce pas? Alors, l'épargne, c'est obligatoire, c'est le prix à payer, c'est la seule action pour inverser le cycle de la pauvreté grandissante dans notre pays.
Radio Okapi. Grande interview.
Pour pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, je rappelle que Grande Interview reçoit aujourd'hui coach Ricardo Kanyama, entrepreneur, self-made man et président de International Success Training Center, ISTC en sigle. Coach Ricardo, vous avez publié un ouvrage très célèbre, La chèvre de ma mère. Brièvement, on ne pourra pas raconter toute l'histoire. Pour les auditeurs qui nous suivent, c'est un livre à succès. Qu'est-ce que vous racontez dans cet ouvrage?
Dans cet ouvrage, je voulais justement dire à tout le monde que devenir riche, ce n'est pas de la magie. Devenir riche obéit à des principes et à une loi simple. Et une des lois, c'est la loi de la croissance, n'est-ce pas? Et la loi de la croissance, c'est comme la loi des semences qui veut que chaque fois que nous sémons, les grains se multiplient. Alors, ce livre, c'est un livre sur l'éducation financière, sur l'intelligence financière dont nous avons besoin, n'est-ce pas? Dans tous les domaines de notre vie, chacun a besoin de connaître l'intelligence financière pour devenir un consommateur intelligent. Parce qu'un pauvre, c'est un mauvais consommateur. Un riche, c'est un consommateur intelligent. C'est lui qui sait qu'il ne doit pas consommer les 100% de sa production. Alors, ce livre a été écrit dans l'intention d'aider toute la population à prendre conscience d'abord du fait que tout le monde peut devenir riche à partir d'un simple revenu. Parce que là, nous apprenons que de même qu'une personne qui a une chèvre se décide de tuer sa chèvre, de perdre toute possibilité d'avoir un troupeau de chèvres, c'est celui-là, les pauvres qui n'économisent pas. Celui qui garde sa chèvre, n'est-ce pas, a toute la possibilité d'obtenir un troupeau de chèvres à partir de cette chèvre. Et ça montre donc l'importance d'économiser et d'investir. Donc,
en fait, il s'agit de votre expérience personnelle.
Pas d'abord de mon expérience personnelle, il s'agit d'abord de connaissances que j'ai acquises après des années de recherche dans les domaines de la création de la richesse, n'est-ce pas? Et ces expériences ont été corroborées maintenant dans mon expérience personnelle, qui m'a aidé à débuter dans les affaires avec un capital près de l'équivalent du prix d'une chèvre, n'est-ce pas, jusqu'à faire de moi aujourd'hui un entrepreneur comme vous en savez. C'est l'expérience aussi que chaque personne peut faire s'il peut apprendre de cette intelligence de base, n'est-ce pas, l'intelligence financière, et s'il peut appliquer le même principe qui n'est rien d'autre que le principe de l'épargne, de l'investissement et du contrôle de ces investissements.
Il y a en ce moment, coach Ricardo Kanyama, beaucoup d'auditeurs qui sont en train de nous suivre et qui sont employés quelque part. Et généralement, lorsqu'on a un emploi, on se sent dans une certaine sécurité. Quelle est la ligne qu'il faudrait franchir de l'emploi à l'entrepreneuriat?
Ok, ça c'est une belle question et il y a vraiment une illusion et c'est une illusion que nous devons chasser. Hein. Les gens croient que quand il a un emploi aujourd'hui, c'est la sécurité et sa vie. Ça c'est faux. Ça c'est une illusion du passé. Dans le siècle passé, il était possible qu'un emploi soit une sécurité. Ça veut dire que tu pouvais avoir ton emploi, faire ta carrière, être stable et finir ta vie dans la stabilité. Aujourd'hui c'est faux. Les emplois aujourd'hui sont volatiles, mais c'est les journalistes. Aujourd'hui, même si vous avez un emploi qui te paye bien, personne n'est te garantit que ton entreprise pourra résister à la compétition dans les 5, 10, 20, 30 années qui vont venir. Ou même personne ne te garantit qu'à la fin de ta vie, tu auras suffisamment de moyens pour t'apprendre en charge. Nous devons comprendre que l'emploi, un tremplin. Ça veut dire, c'est un passage vers la croissance. C'est pas une finalité en soi. Donc, les gens qui travaillent devraient faire le meilleur dans leur travail, mais devraient aussi avoir la vision de faire plus, d'arriver à l'étape suivante, de devenir entrepreneur ou auto-entrepreneur ou entrepreneur carrément qui donne encore l'opportunité à d'autres aussi de venir travailler chez lui. Donc moi je pense que nous devons sensibiliser notre population parce que l'ensemble des gens qui travaillent aujourd'hui considèrent ça comme avoir déjà réalisé leur vie et par conséquent ils entrent dans toutes sortes de crédits de consommation, les crédits des voitures, les crédits des maisons d'habitation, des crédits de voyage et ils s'embourbent là-dedans et lorsqu'on annonce que quelqu'un va perdre son travail, il commence à faire des AVC et des thromboses, mais c'est justement c'est parce qu'il ne savait pas que cette réalité a beaucoup changé.
Le système éducationnel congolais, vous l'avez dit, n'intègre pas l'éducation financière et donc si je vous comprends, le Congolais est formé pour ne pas répondre aux besoins de sa société.
Bon, je dirais que le Congolais est formé pour répondre aux besoins de sa société, mais de façon limitée. Il ne répond aux besoins de sa société qu'en tant que professionnel. Or, nous avons un problème. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est un problème différent de 1960. En 1960, il y avait des emplois disponibles. Il manquait la main-d'œuvre qualifiée. Aujourd'hui, le problème est inverse. Nous avons la main-d'œuvre qualifiée et nous n'avons pas d'emploi disponible. Je ne sais pas si vous comprenez, monsieur les journalistes. Donc, notre formation aujourd'hui ne devait pas se limiter à former un chercheur d'emploi. Notre formation devrait intégrer d'autres éléments qui permet à chaque enfant formé dans notre système éducatif de devenir soit employé, mais s'il ne devient pas employé, qu'il devienne créateur de la richesse, n'est-ce pas? Qu'il puisse amener les actions comme décideur ou comme acteur des actions de création de richesses. Donc, notre système éducatif a laissé un vide. Notre système éducatif n'avait pas compris l'importance de l'éducation financière ou l'importance d'apprendre à la population comment devenir riche. Parce que la somme de la richesse, la richesse d'un pays, c'est aussi la somme de la richesse de sa population, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on n'a pas formé les gens dans ce domaine, d'abord, quand ils deviennent des décideurs, ils prennent de très mauvaises décisions, qui sont des décisions de bonne volonté, mais qui tout de même des décisions suicidaires en termes de création de richesse. Et parce que tous les décideurs aujourd'hui, nous avons été formés dans le même système éducatif, peu de gens ont pris conscience de cela. Mais maintenant, nous lançons l'appel à notre gouvernement, à l'État et à la société de comprendre que si nous ne résolvons pas ces problèmes, d'intégrer un programme d'éducation financière qui devrait apprendre aux enfants depuis l'école primaire jusqu'à l'université comment vivre avec la richesse, quelles sont les décisions que nous devons prendre, comment nous devons travailler pour le progrès de notre vie financière, ce problème de pauvreté ne sera jamais résolu et nous allons toujours continuer avec un taux de chômage croissant.
Prenons un autre cas pratique, coach Ricardo Kanyama, une famille, un homme, sa femme et les enfants, comment est-ce qu'ils peuvent commencer progressivement à intégrer cette éducation à l'épargne au sein de leur famille? Les parents doivent-ils donner l'argent aux enfants? Comment ça devrait se passer? Quel conseil vous donnez à ce sujet?
Il y a déjà des familles qui font ce travail aujourd'hui. Il y a des familles s'appuyant sur les livres La chef de ma mère qui commencent à faire des partages au niveau des familles pour que les enfants grandissent déjà avec l'éducation financière appropriée. Et c'est très important que nous puissions le comprendre parce que la famille aujourd'hui en ville ne comprend plus comment la famille était structurée à l'époque de nos ancêtres. À l'époque de nos ancêtres, lorsque vous étiez nombreux, c'était une richesse. Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi? Parce que chaque membre de la famille contribuait à la production. On vivait essentiellement des champs ou de l'élevage. Plus vous avez beaucoup d'enfants, plus vous aviez la capacité de produire plus. Alors vous étiez riche. Aujourd'hui, dans la cité, avec la logique de l'emploi, parfois c'est une personne qui produit pour toute la famille. Et c'est là un problème. Nous devons apprendre à nos enfants la place de la production. Ça veut dire que les amener dans une dynamique de réflexion où tout le monde n'attend pas que papa et maman produisent, qu'on apprenne aux enfants à faire des petites choses. Si vous êtes dans une famille de 6, parfois vous n'avez même pas besoin de bon. Il faut que les enfants apprennent à faire des travaux domestiques, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour venir vous laver des voitures. Il faut que les enfants apprennent ça. Et les enfants doivent être initiés dans des petites activités comme faire des jardins, vendre quelque chose à côté, contribuer un peu. On voit les enfants pendant toutes les vacances en train de jouer et à la fin des vacances demander tout chez les parents. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas que la vie c'est pas seulement attendre pour dépenser, mais nous devons aussi contribuer pour produire quelque chose d'utile. Pas seulement que nous gagnons de l'argent, mais nous développons cet esprit-là, hein, l'esprit du travail, l'esprit du combat dont on a besoin dans la vie pour demain se prendre en charge. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui arrivent jusqu'à 40 ans, ils sont incapables de se prendre en charge, tout simplement parce qu'ils ont trop attendu des parents et ils n'ont pas développé cet esprit-là d'auto-prise en charge.
Alors, cette émission est en train de se terminer. Coach Ricardo Kanyama, un conseil à tous les auditeurs qui vous suivent à travers la RDC et à travers le monde en ce qui concerne l'épargne, l'éducation financière, la liberté financière, la richesse, l'argent.
Voilà le conseil que je voulais donner à tous les Congolais à travers le monde et dans les pays, c'est de leur dire notre situation actuelle de pauvreté n'est pas une fatalité, n'est-ce pas? Nous pouvons sortir de la situation actuelle, c'est possible, mais nous devons savoir que les succès financiers, c'est quelque part aussi une responsabilité personnelle. Personne ne peut manger à ta place, personne ne peut devenir riche à ta place. Même le gouvernement ne peut te donner que les minimums pour survivre. Mais si tu veux vraiment parvenir à l'indépendance financière, si tu veux vraiment devenir riche, tu as une responsabilité. Et ta responsabilité doit commencer par l'acquisition des connaissances dont tu as besoin. Ta responsabilité doit commencer par les actions dont tu as besoin. Et s'il y a une action dont tu as besoin et que notre population a besoin, c'est l'action de l'épargne et de l'investissement. Donc, il y a acquisition des connaissances et il y a augmentation de notre intelligence pour être en mesure de développer cette compétence d'épargner. Et si nous commençons à épargner, c'est la révolution dans notre vie, c'est la révolution dans notre pays.
Portrait.
Coach Ricardo Kanyama, nous allons terminer cette émission en parlant brièvement de vous. Nous allons découvrir votre parcours dans ce portrait que nous présente Michel Kifindangoy.
Ricardo Kanyama est président d'International Success Training Center, une première institution spécialisée dans le coaching financier en RDC. Spécialiste en création des richesses personnelles, il est chef d'entreprise millionnaire parti de rien. Conférencier motivateur, il est auteur des livres sur les succès financiers, notamment « La chèvre de ma mère », qui est le premier classique africain sur l'éducation financière, investissement et la culture entrepreneuriale.
Un contact pour atteindre votre centre l'ISTC ?
Oui, ISTC, c'est un centre de coaching financier où l'un de nos cours, c'est le cours sur l'éducation financière, parce que ça, c'est la base pour la création de la richesse. Et nous donnons toutes sortes de coaching financier pour les entrepreneurs, pour les employés et pour toute personne qui recherche comment progresser financièrement. Nous avons donc un numéro de contact, c'est le 085 88 92 563, je répète, 085 88 92 563. Nous sommes à Kinshasa sur l'avenue de la justice numéro 44. Nous sommes aussi à Luanda et en Afrique du Sud. Vous pouvez trouver les adresses sur notre page internet. Notre site, c'est lachèvre.org. Donc, si vous cherchez lachèvre.org, vous aurez aussi bien les informations sur ISTC que sur nos activités.
Coach Ricardo Kanyama, merci.
Et je vous remercie aussi la Radio Okapi et les auditeurs qui nous ont suivis.
Grande interview, c'est terminé pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais coach Ricardo Kanyama, entrepreneur self-made man et président de International Success Training Center, ISTC en sigle. Cette émission a été réalisée par Donna Madimba, coordonnée par Michel Kifindangoy, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Présentation, Alain Rung-Mouchige. Au revoir.